Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour, bonjour Marc Rosenblatt. Nous recommençons aujourd'hui les conversations architecturales et urbaines. Donc, je reçois aujourd'hui Marc Rosenblatt, un des cofondateurs de CDU. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ?
Oui, je peux. Bonjour d'abord. CDU, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Allemagne, bien qu'on puisse s'y tromper, mais ça veut dire construction et développement urbain. Notre métier est assez particulier, c'est de concevoir et de réaliser des quartiers avec services intégrés. Voilà, il y a plusieurs mots, on tient à chacun d'entre eux. Concevoir et réaliser parce qu'on n'était pas content de ce qu'on faisait précédemment, il y a une quinzaine d'années. Entre concevoir et réaliser par d'autres qui, globalement, ne faisaient pas exactement ce que nous, on aurait souhaité. Donc, on a continué à concevoir des projets. Et puis, on a mis en place une méthode qui vise ensuite à réaliser les quartiers qu'on conçoit en s'associant avec des promoteurs avec qui nous devenons copromoteurs et qui vise à mutualiser le plus de choses possibles dans l'acte de concevoir et de réaliser pour faire des économies dans le processus, exactement, pour rationaliser et économiser en vue de pouvoir réinvestir ces économies dans les services que nous faisons dans ces quartiers.
Donc, est-ce à dire que dès le début, la structure de CDU, l'idée de base de cette société, c'était d'être dans une transversalité des métiers et de pallier à certaines choses que vous aviez vues chez les promoteurs qui ne vous convenaient pas ?
Absolument, absolument. C'est, on peut le dire de cette manière-là. Je ne le dirais peut-être pas aussi franchement.
Je suis désolée.
Non, mais il n'y a pas de mal. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence dans les quartiers, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça aujourd'hui. Il y a 15 ans, on était à peu près tout seul. Aujourd'hui, on est loin d'être tout seul. Des grands groupes le font. Pour eux-mêmes, mais ils ne le font pas du tout de la même manière que nous. Je dirais pour schématiser, peut-être même pour caricaturer, comme ça, ça nous permet d'aller plus vite. Un promoteur seul qui fait un quartier, quand il fait 10 bâtiments, il fait 10 bâtiments. Nous, on ne fait pas 10 bâtiments.
C'est-à-dire que vous faites de la ville, vous avez conscience de l'urbanité et vous êtes en dialogue constant avec les élus, les services, pour tricoter une autre histoire ?
Oui, les élus, les services, les urbanistes, les bureaux d'études, aujourd'hui les start-up qui travaillent avec nous sur la question des services et la question de l'innovation. On est, pour faire un quartier, je dirais, on est en moyenne autour de la table une vingtaine de personnes. Alors ça paraît beaucoup à d'autres, mais nous, c'est notre métier de piloter ce type de groupement.
Est-ce que vous avez l'impression que l'urbanisme, l'urbanité est devenu quelque chose d'économiquement extrêmement fort, extrêmement viable, ce qu'on n'avait pas conscience il y a à peu près 5 ans, même voilà, 5-6 ans, et du coup, on a quand même ce sentiment que ça crée de l'économie durable. Est-ce que vous étiez un peu précurseur sur ce sujet ?
Alors, d'abord, je fais une différence entre urbanisme et urbanité. Si je ne m'abuse, vous êtes urbaniste.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais
l'urbanité, pour moi, c'est un autre sujet. C'est justement le fondement de notre travail, la question de l'urbanité. Encore une fois, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, et ça va venir à l'économie, le fait de coller des bâtiments les uns à côté des autres ne crée pas l'urbanité. Un quartier, ce n'est pas 10, 20 bâtiments que chaque architecte ou chaque promoteur a conçu et va réaliser de manière indépendante les uns des autres.
Oui, mais ça crée des bâtiments. Il y a toujours eu des
actes, il y a toujours eu des actes, il y a toujours eu ça. On a toujours fait un certain type d'urbanisme. Nous, on veut faire un glissement vers un autre type d'urbanisme, celui qui va vers l'urbanité. Je vais essayer de le donner en une phrase que j'utilise régulièrement, c'est de dire, on peut habiter n'importe où, il y a du logement libre partout en Ile-de-France, partout en France. On ne peut pas habiter de cette manière-là ailleurs que dans les quartiers que nous faisons, parce que nous ne faisons pas, par exemple, sur une opération, je crois que vous connaissez Neuilly-sur-Marne, on fait 24 bâtiments en même temps. On a déposé quasiment 100 000 m² de permis de construire en même temps. On va créer ce quartier en une seule phase. À partir du moment où on le fait en une seule fois, 24 bâtiments, on ne fait pas 24 bâtiments. On fait un vrai quartier, conçu ensemble. Et puis, on va y créer des services à l'intérieur de ce quartier, des services gratuits à la population, qui fait qu'on ne pourra pas habiter autrement. On ne pourra pas habiter plus exactement de cette manière-là, à un autre endroit, parce que intégrés au quartier lui-même, nous nous serons d'abord intéressés au mode de vie des gens.
Et alors, est-ce à dire que l'on met en place des quartiers un peu comme des îlots privilégiés, ou c'est un petit peu ouvert sur l'extérieur, hein?
Alors, c'est les deux. C'est vrai. Le risque, il est aussi celui-là, il ne faut pas le nier. C'est des quartiers privilégiés, ce n'est peut-être pas le mot que j'utiliserais, mais il n'est pas loin de la vérité non plus. Mais en même temps, on essaye à chaque fois que les services qu'on va créer à l'intérieur de ce quartier soient duplicables dans les alentours ou soient élargissables. Je ne sais pas si le mot peut s'utiliser, mais prenons-le quand même. Puissent être élargis à l'ensemble des quartiers au fur et à mesure dans toute la ville. Alors, ce n'est pas possible pour tous les services. Quand on crée une conciergerie gratuite du quartier, c'est parce qu'on l'a payée dans l'opération et qu'il est très difficile de l'ouvrir à tout le monde dans la ville. Surtout que c'est une question de proximité, une conciergerie de quartier. Mais d'autres services, on les élargit.
Je vais revenir sur les services. On a compris effectivement cette nécessité de diffuser sur les quartiers alentours, j'irais, pour avoir un tricotage intéressant aussi entre les populations nouvelles qui vont arriver sur ce nouveau quartier et les populations qui existent dans les quartiers alentours. Mais donc il y a une notion d'économie quand vous dites que vous travaillez sur tous ces logements en même temps, c'est-à-dire économie de la construction, économie des chantiers. Est-ce à dire aussi qu'il y a une économie de la commercialisation de ces logements, par exemple,
hein? Absolument. Il y a une économie à chacune de ces étapes. C'est ça qu'on a travaillé depuis, je dirais, plus d'une dizaine d'années. C'est de se dire que quand on mutualise de la conception à la réalisation...
Et à la commercialisation.
Et à la commercialisation. On va non seulement créer des économies à chacune des échelles, ça c'est relativement facile à comprendre, mais on peut y revenir avec quelques éléments de détail, mais en plus, indépendamment de l'économie, on va conceptualiser quelque chose qui va être encore une fois complètement différent d'une autre démarche qui serait de concevoir bâtiment par bâtiment.
Alors comment ça se passe avec les promoteurs, par exemple, sur la commercialisation? Ça ne doit pas être évident de leur demander de commercialiser ensemble autant de logements?
Alors, c'est vrai que je dirais la première fois qu'on l'a fait, il y a quelques années de ça maintenant, mais la première fois qu'on l'a fait, ça a été compliqué à imaginer d'abord, et puis ensuite à mettre en place avec les promoteurs. Sauf que, je dirais, pour reprendre une citation ancienne, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. En 2011-2012, on a commercialisé, on a lancé une opération sur le plateau de Saclay, 1500 logements, 300 logements sociaux, 1200 logements en accession. On est en pleine crise immobilière. On a inventé un nouveau mode de commercialisation groupé. Les promoteurs ne commercialisaient pas individuellement leur logement, mais il y avait une maison de projet et il n'y avait qu'un seul mode de communication et de commercialisation. C'était le quartier. Le nom des promoteurs, de l'ensemble des promoteurs, était écrit en bas.
D'accord, donc on vendait un quartier, un mode de vie, non pas du logement. D'accord.
Voilà. Et à cette époque, donc on est en pleine crise immobilière. Rappelez-vous, pas grand-chose se vendait à l'époque. On a vendu les 1200 logements en 9 mois.
Oui, incroyable.
Voilà. Et donc, à partir de là, quelque part, les promoteurs ont fini par nous croire dans la méthode de conception et de commercialisation.
Oui, mais maintenant, ils ont, compris la méthode.
C'est vrai.
Ils l'ont en partie copiée.
C'est vrai.
Dupliquée.
C'est vrai.
Innovez comment maintenant? Vous êtes sur la métropole? Vous innovez sur d'autres projets?
Oui, on innove d'abord.
Parce que c'est ça aussi
l'enjeu. Moi, je dis toujours...
L'enjeu.
J'ai dit toujours, on ne va pas aller concurrencer les gros, d'abord on travaille avec eux. Les promoteurs avec qui on s'associe, c'est Bouygues-Immo, FH, Vinci, Nexity, Gic, Kaufmann, Marignan, etc., etc. Ce sont tous nos associés dans des opérations. Donc il n'y a pas de concurrence. Deuxièmement, il y a un effet de taille. Les promoteurs en général ont besoin de faire du chiffre d'affaires parce que leur métier de base, c'est le diffus. c'est pas les grands projets. Aujourd'hui, ils s'y sont tous mis. Parce qu'il commence à y avoir des grands projets et qu'ils ont compris quelque part que le grand projet, y compris en termes bilanciels...
Bon, on voit très bien sur la métropole.
On voit très bien sur la métropole. Mais nous, on a une grande différence. C'est... on ne fait pas de prêt-à-porter, on fait du sur-mesure. Donc, je ne vais pas être concurrent de tous les grands promoteurs. Prenons un exemple, 59 projets dans Inventer la métropole. Nous, on répond à un seul d'entre eux. Le plus gros, 35
D'accord.
hectares.
Vous avez décidé de ne pas vous disperser.
On ne se disperse pas parce qu'on fait du prêt-à-porter. On ne fait pas de prêt-à-porter, on fait du sur-mesure. Et c'est compliqué de faire du sur-mesure. Réinventer à chaque fois, innover à chaque fois dans les projets pour ne pas se répéter, pour ne pas s'ennuyer, ça a une certaine complexité qui fait qu'on ne peut pas se dupliquer 50 fois. On refuse plus de projets qui nous sont proposés que de projets dans lesquels on va vraiment s'investir.
Alors, quelle est la singularité de celui sur lequel vous êtes en ce moment ? On n'a pas très beaucoup de temps pour en parler, mais c'est quand même très intéressant.
Sur Sevran, on y a été pour deux raisons. La taille de l'opération, 35 hectares, ce n'est pas tous les jours. Et puis, c'est des tailles d'opérations qui nous intéressent. Je crois que vous connaissez celle de Nuits-sur-Marne parce que c'est la plus importante d'Île-de-France, 60 hectares, 4500 logements à faire. C'est des tailles d'opérations qu'on aime, nous. Plus c'est compliqué, plus on aime ça. Plus c'est gros, plus on aime ça. Mais là, il y avait une particularité en plus. C'est qu'il faut créer un lac. 9 hectares. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Il faut créer une base de loisirs aquatiques, mais qui ne soit pas à la pépère, à l'ancienne. Il faut qu'elle fonctionne pour les 30 ou 40 ans qui viennent. Donc il faut innover en matière de loisirs aquatiques, et puis créer un quartier de logement autour. Et ça, pour nous, c'était, un moyen d'innover sur des choses qu'on n'avait pas faites jusqu'à présent et qui nous paraissaient particulièrement intéressantes.
Donc mélanger sport, loisirs et dans une banlieue qui n'est pas n'importe laquelle.
Et dans une banlieue en difficulté, dans le but de changer l'image de cette banlieue, puisque l'opération, c'est à Sevran.
Bah écoutez, vous nous avez vraiment donné envie de continuer et d'essayer d'en savoir un peu plus. Bah on se donne rendez-vous en septembre, lorsque votre équipe aura peut-être gagné.
J'espère.
Merci beaucoup. Marc. Merci à vous.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.